Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond, en tout cas qui essaie, donc la dernière de la saison pour CO2 Mon Amour, avec à la technique Benjamin de la Gâtinais et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza. Cette semaine, c'est Fabrice L'Aigle qui réalise l'émission. Avec pour débuter une petite pensée pour nos amis du Var, frappés par des pluies comme on n'en avait pas vu tomber dans la région depuis près de 2 siècles, des torrents qui vous démolissent en 1/4 d'heure, des années de vie et de construction. Alors vous me direz, bon, la terre qui tremble en Haïti, au Chili, le volcan islandais, Xintia qui noie les pavillons de Charente et de Vendée. Comme le disait Thomas Brown, la longue habitude de vivre finit par nous faire oublier que la vie est un cadeau fragile. Alors étant donné que nous n'avons pas encore de solution de rechange, on va dire de plan B, on évitera donc s'il vous plaît d'en rajouter avec nos autoroutes pour méga camions, notre urbanisation galopante, l'extension des élevages de porcs XXL, oui ça vient de sortir du chapeau mercredi, par quelques députés bretons élevés au nitrate, nos sols malades de pesticides et nos marées noires flingueuses de biodiversité. Chasse, pêche et pollution, donc vaste programme. Et bien tenez, justement, vous qui aimez flâner à la campagne, sachez qu'il vous en coûtera désormais 1500 euros de vous interposer entre un chasseur et ses victimes, martres et blaireaux, qui ne sont absolument pas reconnaissantes envers Jean-Louis Bordeaux, qui est un peu à géométrie variable dans sa version ministre de la chasse. Alors on sait ce que c'est que d'être un personnage politique, hein, ballotté au rythme des marées de l'opinion publique, Grenelle 1 par-ci, Grenelle 2 par-là, et tant pis pour la trame verte et bleue qui a été sacrifiée là aussi ces jours-ci par une poignée de députés et de sénateurs réunis entre amis. Mais puisque nous comptons quand même bien terminer cette saison de CO2 Mon Amour, oui, voici une bonne nouvelle et nos félicitations à Stefania Prestigiacomo. Bon, si le nom ne vous dit rien, c'est normal, c'est que la dame en question ne joue pas dans la Squadra Azzurra, mais dans l'équipe du gouvernement Berlusconi, au poste arrière de ministre de l'Environnement. Stefania est d'ailleurs surnommée la Belle au bois dormant, au vu de ses piètres prestations dans la spécialité protection de l'environnement. Mardi donc, la belle s'est réveillée. Nous sommes en Sardaigne, Jean-Louis Borloo dans le rôle du prince charmant s'entend avec sa dulcinée et décide d'interdire le détroit de Bonifacio aux tankers, aux chimiquiers, donc des navires chargés de substances tous les plus dangereuses les unes que les autres, car nous sommes dans une zone hyper fragile. Alors attention, l'affaire n'est pas encore gagnée, nos robins des mers doivent encore obtenir une dérogation à la convention de Montego Bay sur les océans, et celle-là même, c'est celle-là même qui nous organise pour bientôt le pillage de l'Arctique. Mais nous on applaudit parce qu'on voit déjà les mérous, les cormorans, les pétrels, les goélands d'eau loin s'ébattre dans l'archipel des Lavezzi et cohabiter au cœur du parc marin franco-italien où, faut le dire aussi, ont trouvé refuge quelques couples de milliardaires. Et si la solution pour protéger nos espaces naturels, c'était d'y installer de riches héritiers, hein ? Alors au menu de cette émission, tenez, 4 volets. Dans quelques instants, ce sera Jean-Marie Pelt qui nous parlera de la couleur et des odeurs des fleurs. Et puis, un homme que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle Éric Lambin.
Malheureusement, nous sommes dans une culture matérialiste où le statut social est acquis par la consommation de biens qui sont riches en matériaux, riches en énergie. Et ça nous envoie dans un cycle infernal qui non seulement érode le capital naturel, mais en plus ne nous rend pas heureux. Oui. Ce qui est démontré aujourd'hui de manière très très claire par des études psychologiques, sociologiques.
Et dans un ouvrage qui s'appelle « Une écologie du bonheur », il essaye de réconcilier donc ces deux mots, ça nous fera du bien. Nous partirons en Afrique du Sud avec Valérie Hirsch, on parlera cette fois-ci du sous-sol. Et tenez, tenez, je crois que vous connaissez cet homme.
C'était le pays de mes grands-parents, oui. Mon grand-père avait des vignes, j'allais avec lui, et c'était des vignes à flanc de coteau. Et j'en vois toujours, enfin je ne veux pas faire de la poésie à 3 balles, mais dans le soleil c'était sublime.
Disparu il y a 10 ans, donc ce sera un petit hommage avec Frédéric Dard que j'avais eu le plaisir de rencontrer dans le département de l'Isère. Voilà, donc ces 4 pages que nous allons feuilleter. On va débuter tout de suite en musique grâce à Muriel Pérez qui choisit les disques avec Mickey 3D.
Gamin, Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, y'avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Eh bien, nous poursuivons notre petit tour de l'histoire des plantes, de notre connaissance des plantes. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour, bonjour Denis, bonjour à tous.
On parle de plantes avec des fleurs et d'autres avec des fruits.
Mais les plantes, elles portent des fleurs, et les fleurs, quand ils sont pollinisés par le vent ou par les insectes, donnent des fruits. Voilà. C'est-à-dire que les plantes, elles portent à la fois des fleurs et des fruits, mais pas en même temps, pas toujours, ça dépend. Dans les régions tropicales, il y a des fleurs et des fruits sur le même arbre en même temps. Dans nos régions, c'est bien rythmé par les saisons. Le printemps, c'est les fleurs. L'automne, c'est les fruits. C'est parfaitement réglé. Et alors, ce qui est beau à voir, c'est ce qu'on voit au printemps, c'est-à-dire cette floraison extrêmement intense de nos haies, de nos arbres fruitiers, des arbres au bord des routes. Il faut savoir qu'un Africain du Cameroun, il n'a jamais vu ça. Quand j'étais en première année de pharmacie, j'avais ramené à la maison au printemps, dans notre jardin, une dizaine d'amis étudiants en noir qui étaient complètement estomaqués par le spectacle. Parce que sous les tropiques, on ne voit pas beaucoup de fleurs. Dans les forêts équatoriales, on n'en voit même pratiquement pas du tout parce qu'elles sont perchées tout en haut. Et dans la canopée, on ne les voit pas. Donc il y a donc cette floraison extraordinaire au printemps. Mais la couleur des fleurs n'incite pas à déduire la couleur des fruits.
Alors justement, maintenant parlons de ces fameuses couleurs. Comment se passe la répartition? À quoi servent ces couleurs? Pourquoi les plantes ont des couleurs différentes, par exemple?
Alors, les couleurs, ce sont les enseignes publicitaires des fleurs. La corolle, c'est la pub. Quand les insectes voient les couleurs de la corolle, ils se précipitent sur la corolle et ils vont vite chercher sur les étamines le pollen qu'ils vont porter vers une autre corolle sur laquelle ils se précipitent de nouveau. Et ainsi, le pollen passe sur le pistil de l'autre fleur. Ça s'appelle la pollinisation. Les insectes ne voient pas avec leurs yeux à facettes les couleurs comme nous. Par exemple, les insectes, ils ne voient pas le rouge. Et certains insectes, comme les hannetons ou les scarabées, ils voient tout en blanc. C'est la télévision en noir et blanc. Les autres, ils voient des couleurs, mais ils ne voient pas le rouge. Alors, on va pleurer pour le pauvre coquelicot. Comment donc va-t-il être fécondé par des insectes si l'insecte ne voit pas le rouge? C'est que le coquelicot, il n'aimait pas qu'une couleur rouge, il aimait aussi une couleur que nous ne voyons pas et que l'insecte voit, qui est la couleur ultraviolette. Ah. C'est la couleur qu'on voit dans les boîtes de nuit quand les chemises blanches deviennent violettes.
Que vous fréquentez assidûment.
Que je fréquente assidûment, naturellement, pour étudier la lumière des boîtes de nuit. Alors l'insecte, il voit ça. Et ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'il y a dans la nature beaucoup de fleurs qui sont violettes ou qui sont pourpres, qui sont donc un mélange de bleu et de rouge. Eh bien, l'insecte, il les voit toutes bleues, celles-là. Il ne voit pas le pourpre du tout. Il élimine complètement le rouge et il garde le bleu. Et on peut voir des astuces bizarroïdes. Par exemple, les marronniers, ils ont souvent des fleurs blanches avec deux taches jaunes. Et l'insecte, il voit ces taches jaunes, il fonce dessus. Et quand il est foncé sur les taches jaunes et qu'il a emmené le pollen, eh bien, la tache jaune, elle devient rouge. Alors du coup, l'insecte ne la voit plus. Oui. Et il ne va plus dessus. Les feux sont éteints. C'est l'extinction des feux. Ou c'est le feu rouge, si vous voulez. Donc il y a des jeux très, très subtils de couleurs. Si les cerises sont rouges, mais c'est parce que l'insecte ne s'intéresse absolument pas aux cerises. Ce sont les oiseaux qui s'intéressent aux cerises. Et les oiseaux, eux, voient très bien le rouge. C'est même la couleur qu'ils préfèrent. Mmh. Dans les pays tropicaux, il y a énormément de fleurs rouges. Ces fleurs rouges sont fécondées par des petits oiseaux, et en particulier par les oiseaux de paradis. Donc, les cerises rouges ou les tomates rouges sont des aliments pour les oiseaux. Les tomates aussi, mais les tomates, elles sont devenues toutes grosses. Mais les tomates, à l'origine, telles qu'elles existaient quand les conquistadors espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, étaient petites comme des cerises. Et elles étaient donc consommées aussi par des oiseaux. Maintenant, il y a des grosses tomates qui peuvent ressembler presque à des melons. Parfois, elles sont très, très grosses. Alors, le pauvre oiseau, bon, il peut picorer dedans, mais il va se faire une indigestion s'il la mange d'un bout à l'autre.
Jean-Marie, parlez-nous aussi des odeurs. On a des odeurs qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous percevons. Quel est le rôle de ces odeurs et comment c'est perçu par les animaux?
Les odeurs et les couleurs, c'est pareil. Nous croyons qu'elles sont faites pour nous. Nous avons l'idée incroyable que les fleurs ont des belles couleurs et de bonnes odeurs pour nous plaire. Mais ce n'est pas du tout pour nous. C'est que pour les insectes. C'est nous qui mimons, en fait, les insectes. C'est ça. Alors, les insectes sont attirés par l'odeur. Ils sont attirés par la couleur, par l'odeur, par le nectar et parfois par le mime, quand une fleur se déguise en insecte, comme c'est le cas chez les ophrys dans la famille des orchidées. Et les odeurs, elles sont différentes d'une espèce de plante à une autre espèce de plante. Il y a certaines espèces de plantes qui n'ont pas beaucoup d'odeur ou pas d'odeur, mais on connaît évidemment d'innombrables plantes qui ont des odeurs délicieuses. Et c'est à la base de toute l'industrie des parfums, des parfums naturels. Alors, il faut remarquer d'ailleurs que, curieusement, on a essayé d'améliorer les roses, mais on a oublié de sélectionner les odeurs parce qu'on n'y arrive pas. Alors, on a maintenant de très belles roses qui ne sentent plus rien. Ce que je trouve un peu désolant. Je trouve que l'odeur de la rose est quelque chose qui est absolument irremplaçable. Et les parfums, on y est quand même très, très, très sensible. Les animaux sont sensibles aussi aux parfums. Et puis, il y a de sales, vilains animaux comme les mouches qui sont sensibles aux odeurs épouvantables que nous détestons complètement, les odeurs d'excréments, de cadavres, etc. Parce que le petit monde du vivant n'a pas que des vivants qui ont les mêmes goûts. Certains ont des goûts différents de nous. Nous pensons que telle odeur est très agréable, mais il se peut tout à fait qu'une mouche trouve cette odeur épouvantable.
Parlez-nous, Jean-Marie, du jour et la nuit. Comment les plantes le perçoivent ? Parce qu'elles font la différence entre le jour et la nuit.
Déjà, pour commencer, elles ne font plus la photosynthèse la nuit. Elles respirent 24 heures sur 24, mais elles ne fabriquent pas de matière vivante la nuit. La chlorophylle ne peut pas fixer les rayons du soleil puisqu'il n'y a plus de soleil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elles reconnaissent la longueur des jours et des nuits. Et c'est à partir du moment où les nuits commencent à devenir plus courtes que les jours, donc à partir du 21 mars, l'équinoxe au printemps, que la végétation démarre. Et ça s'appelle la photopériode. C'est-à-dire, quand les nuits deviennent courtes, alors la végétation prend son essor. Pour la plupart des plantes, mais pas pour toutes. La plupart des plantes fleurissent quand les nuits sont courtes. Mais par exemple, le chrysanthème, il fleurit quand les nuits sont longues. Alors quand la nuit est longue, c'est le cas à la Toussaint, puisqu'on est à un mois et demi après l'équinoxe d'automne, le chrysanthème va pousser en nuit longue. Et si vous voulez fleurir un chrysanthème le 14 juillet, vous le mettez dans une serre et vous fermez, vous occultez la serre, vous y mettez l'obscurité à partir de 5 heures du soir et le chrysanthème croit qu'il est au mois de novembre et se met à fleurir. Question, est-ce que c'est la longueur des jours ou la longueur des nuits que les plantes reconnaissent ? Eh bien, c'est la longueur des nuits. Si vous voulez trahir un chrysanthème, vous lui mettez une nuit longue, alors il va avoir tendance à fleurir naturellement, mais vous lui faites une feinte. Un autre chrysanthème dans une serre à côté, vous mettez une nuit longue, la même longueur, mais vous la coupez par une minute de jour. Le chrysanthème ne fleurit plus du tout parce qu'il croit qu'il est en période de nuit courte. Ça lui est égal qu'il ait deux nuits courtes l'une derrière l'autre, ça lui est complètement égal. Il dit « c'est une nuit courte et je ne fleuris pas ». Voilà ce qu'il y a dans la caboche d'un chrysanthème.
Eh bien, merci beaucoup. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Là où CO2 mon amour passe, la pollution trépasse. Et allez.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Don't call me anymore, wicked boy. Don't waste your time, wicked boy. Wanna leave me alone? Forget me for good, wicked boy. And nothing's gonna change you, wicked boy. I pray for you, wicked boy, to save your soul. Oh my Lord, God bless you, wicked boy. Ooh, you can dance, you can dance, dance around me. Everyone else you around. Never be my mind.
right in your pockets. Wicked boy, with your cigarettes. Wicked boy, I pray for you. Wicked boy, God bless you. Wicked boy.
Oui, ça va jusqu'au bout comme ça. C'était Wicked Boy, c'est très agréable. C'était Piper Island sur France Inter. J'espère que vous allez bien. Il fait pas encore très chaud, mais ça devrait un peu s'améliorer quand même pendant ce week-end. Là où il fait déjà beau, c'est dans le numéro du mois de juin là, que j'ai sous les yeux de notre partenaire Terre Sauvage. Bon, au-delà d'un petit papier d'humeur que vous pouvez reconnaître, il nous emmène ce mois-ci en Alaska. Et en Alaska, il n'y a pas simplement une ancienne sénatrice qui veut éventrer tous les sous-sols de la Terre. Non, non. Il y a aussi le rêve sauvage qui est très, très intéressant. Et puis du côté de Lyon, là on se dit Lyon, bah oui, on connaît très bien la capitale des Gaules, mais aussi des castors, donc des castors dans le Rhône. Et puis au Sénégal, là ça nous fait le plus grand bien parce qu'on rencontre des semeurs d'espoir aussi dans ce numéro, c'est-à-dire des gens qui refabriquent de la mangrove. Voilà, et on pouvait aussi partir en Mongolie. Mais nous, là maintenant, donc après ce numéro de Terre Sauvage, eh bien on va partir dans un autre endroit. Si, vous le connaissez, mais on change quand même de registre. Allez, on va faire un petit tour à présent. Écoutez, en Afrique du Sud, nous allons rejoindre Valérie Hirsch, qui est correspondante francophone, alors à la fois pour nos amis de la RTBF, pour Libération, pour différents supports. Valérie Hirsch, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Valérie, donc nous sommes, j'allais dire chez vous, parce que vous y êtes déjà depuis un certain temps, dans un pays qui est grand comme plus de deux fois la France, avec d'un côté une belle biodiversité, et puis de l'autre, il y a évidemment le sous-sol. On connaît l'Afrique du Sud pour ses mines de charbon et ses mines d'or. Alors racontez-nous un petit peu ce que ça représente, cette prolifération de mines de charbon en Afrique du Sud.
Oui, il y a une ruée vraiment sur le charbon, surtout dans la province du Mpumalanga, qui se trouve entre Johannesburg et le Swaziland. Alors, ça a toujours été la province des mines de charbon, qui était jusqu'à présent concentrée dans l'ouest de la province, où il y a aussi 12 centrales au charbon, qui fournissent en fait 80% d'électricité en Afrique du Sud. Maintenant, donc, il y a une ruée dans l'est de la province, où 80 nouvelles mines ont été ouvertes. Et en fait, il y a eu 5000 demandes de permis d'exploration et 500 pour entamer la production qui ont été déposées ces dernières années dans la province de Mpumalanga. Alors, pourquoi ? L'Afrique du Sud produit environ 280 millions de tonnes de charbon. Un quart est exporté vers la Chine, l'Europe. Un quart est transformé en pétrole par la compagnie Sasol. Et puis la moitié va à la production d'électricité. Alors la compagnie publique Eskom est en train en fait de doubler la capacité de production d'ici 2013 parce que l'Afrique du Sud manque d'électricité. Voilà. Et donc Eskom est en train de construire deux énormes centrales au charbon qui seront les 4e et 5e plus grandes au monde. C'est un programme d'investissement de 4 milliards d'euros. Mmh. Et comme je vous l'ai dit, le pays dépend avant tout du charbon.
Ce charbon abonde à faible profondeur donc, et on est dans une région qui est sensible d'un point de vue écologique. Et le problème, ce sont les rejets d'eau d'acide qui viennent des mines.
Oui, exactement. Cette région abrite en fait les sources de trois grands fleuves, notamment le Vaal, qui devient ensuite le fleuve Orange et qui traverse toute l'Afrique du Sud pour se jeter dans l'Atlantique. Donc c'est une région très sensible, une région de marais, c'est un espèce de château d'eau. C'est aussi une région agricole très productive en Afrique du Sud. Eh bien voilà, les fermiers sont vraiment furieux parce que il y a des demandes d'ouverture de mines sur toutes les terres agricoles. Le problème, c'est effectivement les rejets d'eau acide de ces mines, parce que pour atteindre le charbon, il faut dynamiter une couche de roche imperméable. Et donc, l'eau de pluie s'infiltre dans la mine et s'acidifie au contact de la pyrite qui est contenue dans le sous-sol. Et quand les mines sont fermées, eh bien, l'eau n'est plus pompée. Et puis après quelques années, elle commence à s'exfiltrer, si je puis dire, hors de la mine. Et elle pollue les nappes phréatiques, donc les sources d'eau, les fleuves qui abreuvent l'Afrique du Sud. Alors ces rejets, malheureusement, durent pendant des centaines de milliers d'années. Et les entreprises ne sont tenues de traiter l'eau que quelques années après leur fermeture.
D'accord.
Alors déjà, dans l'ouest de Johannesburg, il y a un énorme problème à cause des mines d'or. Même problème d'ailleurs de rejet d'eau d'acide. Et l'État doit débourser des millions d'euros pour traiter les rejets qui menacent maintenant toute la nappe phréatique de Johannesburg.
Donc on fait une fois de plus du curatif et pas du préventif. Et même l'Union européenne menace de ne plus importer certains fruits d'Afrique du Sud à cause de cette pollution des eaux.
Oui, à cause des rejets acides venant des mines, des industries, des produits chimiques agricoles et aussi des eaux usées. Parce qu'en fait, dans 90% des municipalités, l'eau qui est rejetée par les stations d'épuration n'est plus aux normes parce que les stations n'ont plus été entretenues. Alors le gouvernement va devoir investir plus de 2 milliards d'euros pour réparer les stations d'épuration.
On le rappelle, à peu près la moitié de l'humanité produit son électricité à partir du charbon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine par exemple. Les énergies renouvelables, qu'est-ce que ça représente? C'est peu développé ou ça commence à l'être en Afrique du Sud?
Très peu en Afrique du Sud jusqu'à présent. Il a fallu attendre cette année pour que le gouvernement produise enfin un plan pour développer l'énergie solaire, éolienne, alors qu'il y a un potentiel énorme. Alors l'Afrique du Sud est déjà le 12e pollueur mondial de gaz à effet de serre, le 3e par tête d'habitants. Mais Eskom et le gouvernement ne jurent que par le charbon. Alors il y a des raisons. Toutes les compagnies minières établies comme anglo-américaines ont l'obligation de conclure des accords de partenariat avec des nouveaux opérateurs noirs. Elles ont finalement cédé à bon prix leurs droits qu'elles détenaient sur les gisements de charbon dans l'ouest du Mpumalanga. C'est comme ça, en fait, elles se lavent un peu les mains des conséquences sur l'environnement. Alors l'ANC a aussi un intérêt très direct dans la construction des centrales au charbon, puisque le parti au pouvoir a un holding d'investissement qui s'appelle Chancellor House et qui est partenaire à 25% de la société japonaise Hitachi, qui a obtenu la fourniture des chaudières des deux centrales. C'est un contrat de près de 4 milliards d'euros au total, dont l'ANC bénéficiera finalement d'un quart. C'est la course au profit qui l'emporte sur les conséquences pour l'environnement.
On est un petit peu loin, évidemment, du ballon rond, hein, Valérie Hirsch. Sinon, lorsque l'on parle, on va dire, d'environnement de manière plus positive, il y a aussi quand même des coins extraordinaires. Je parlais de biodiversité, c'est assez incroyable aussi, l'Afrique du Sud.
Oui, il y a des coins de biodiversité incroyables, mais qui sont de plus en plus menacés par le réchauffement climatique, notamment dans la région du Cap, qui abrite l'une des richesses florales les plus importantes au monde. Et on voit bien que l'Afrique du Sud n'a pas l'air de s'en soucier énormément. Enfin, le réveil est vraiment tout récent. Maintenant, ils pensent enfin à prendre des mesures, mais c'est très tard. On n'a pas l'impression que c'est une priorité vraiment de l'ANC.
Merci Valérie Hirsch pour cette page d'actualité. Vous avez remarqué qu'on a réussi à parler d'Afrique du Sud sans prononcer les mots de foot et de vuvuzela. Oui, vous saluerez donc la performance, bien évidemment. Et on se retrouve dans quelques instants. On va parler d'écologie du bonheur avec un homme qui s'appelle Éric Lambin. Et ce sera donc juste après cet homme-là. Pas mal de talent non plus. Bastien Lallemand, voici La Plage.
Sur la plage sans fin, une femme que les vagues découvrent, puis recouvrent sans fin sur la plage. Sur la plage. Plage. la plage ce matin. Une femme que les marins retrouvent et sortent des embruns sur la plage. Sur la plage de sable fin.
Ça, il manque juste les vagues, les embruns, mais enfin, on y est presque. On va vous parler d'une écologie du bonheur. Pourquoi ? Parce que c'est le titre d'un ouvrage qui est sorti il y a déjà quelques temps aux éditions du Pommier, qui est signé Éric Lambin, qui vient de recevoir le prix de la Fondation Veolia Environnement, qui avait déjà décerné ce prix à Robert Barbeau pour Un éléphant dans un jeu de quilles, pour l'excellent livre aussi qui s'appelle Effondrement. Et avec vous, donc, Éric Lambin, vous êtes professeur au département de géologie et de géographie à l'université de Louvain. Et bien, on peut se dire que ces deux mots, bah, l'écologie et bonheur, ça ne fonctionne pas toujours systématiquement. Et vous, donc, vous voyez de façon positive ce changement de civilisation.
En effet, il y a une transition vers un développement durable qui doit être accomplie à tout prix et rapidement. C'est un enjeu considérable. Et ma conviction est qu'on a d'autant plus de chances de relever ce défi que ceci est perçu non pas comme un sacrifice à accomplir pour éviter des catastrophes écologiques, mais bien comme un moyen de trouver, retrouver le bonheur par une vie plus simple, un système de valeurs post-matérialiste, un retour à nos racines dans la nature.
Alors, vous pointez quand même assez bien toutes les contradictions que nous avons et surtout ce système dément dans lequel on est, à la fois de consommation, de production.
Oui, malheureusement, nous sommes dans une culture matérialiste où le statut social est acquis par la consommation de biens qui sont riches en matériaux, riches en énergie. Et ça nous envoie dans un cycle infernal qui non seulement érode le capital naturel, mais en plus ne nous rend pas heureux. Oui. Ce qui est démontré aujourd'hui de manière très très claire par des études psychologiques, sociologiques.
Mais c'est quand même tout à fait voulu. Je veux dire qu'on cherche quand même à créer du manque, à créer du désir, donc de l'insatisfaction.
Ça fait partie d'un système pervers qui n'est pas intentionnel. Je pense que c'est un effet pervers d'une grande spirale liée à un système technologique d'innovation permanente, une focalisation très forte sur la croissance. Et donc nous nous sommes piégés dans un système qui finalement ne nous rend pas la satisfaction que nous espérions.
Alors, vers quoi tendre aujourd'hui ? Comment essayer de réorienter cet immense navire, on va dire occidental, qui en plus a essaimé dans d'autres pays ?
Les études statistiques sont très très claires. Les pays dont la population sont la plus heureuse et les personnes, les individus qui sont les plus heureux ont deux caractéristiques. Ce sont donc d'une part l'adoption d'un système de valeurs post-matérialiste et d'autre part un niveau d'éducation plus élevé. Donc ce sont deux investissements qui payent à long terme et qui peuvent être promus évidemment par des politiques nationales mais aussi par un système culturel qui peut se diffuser par nos réseaux sociaux.
Alors, beaucoup de personnes sont déjà dans cette affaire-là, mais d'autres se disent la nature c'est en fait le décor de mes loisirs ou bien c'est un stock dans lequel on peut puiser. Comment on fait ? Je veux dire, comment peut faire l'individu pour s'emparer de cette affaire-là aujourd'hui, s'il veut réorienter les choses ?
Alors de nouveau, là, les études en psychologie sont très très claires. Elles montrent que c'est un investissement qu'on doit faire dès sa tendre enfance. Les enfants qui sont amenés dans un milieu naturel très tôt par leurs parents développent un plus grand sens de la nature et donc un plus grand respect. Et c'est là où l'investissement sera le plus rentable à long terme, si je puis dire. C'est là où véritablement on crée cette mutation culturelle. On voit d'ailleurs pour beaucoup de comportements de recyclage et de transport qu'il y a une forte pression des enfants sur leurs parents. Oui. Dans beaucoup de ménages, c'est le jeune enfant qui dit à son papa « recycle un peu ce matériel ».
Quels sont les espoirs que vous avez ?
Alors, les technologies, on les connaît, même s'il y a évidemment des investissements à faire. Les institutions, quelles sont les politiques pour faire virer ce navire ? Là aussi, je pense que de plus en plus, on a une expérience grâce à quelques pays qui ont été pilotes dans ce domaine. Le point de blocage aujourd'hui, c'est vraiment l'intégration de ces changements au niveau des comportements individuels. Je pense qu'il serait naïf de penser que si les gens comprennent la nécessité de faire cette transition sur un plan rationnel, ils vont nécessairement la faire. Il y a encore une espèce de déconnexion entre le bien social collectif et le comportement individuel. Et donc c'est là, c'est cette responsabilisation des individus, je pense, qui est très très importante.
Il faut quand même qu'il y ait des chefs de file, c'est-à-dire il faut aussi quand même que le monde politique nous donne un cap. Mais aujourd'hui, on constate quand même que beaucoup d'élus s'emparent du sujet. Et puis après, il y a quand même des réalités de terrain qui ne collent pas forcément.
Alors, le développement durable, c'est l'art du compromis. Il y a très peu de solutions, on gagne sur tous les plans. Il y en a quelques-unes, pourtant, et ce seraient les fruits à accueillir à tout prix, parce qu'ils nous coûteraient peu cher. Mais pour le reste, en effet, il faut apprendre à arbitrer entre différentes priorités, du court terme et du long terme. Et ça, c'est le sens même du mot politique, c'est l'art des choix.
Sur quoi on peut agir très facilement ?
Alors, diminuer de moitié sa consommation de viande quotidienne va avoir des effets bénéfiques sur votre santé, sur le bien-être animal, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la déforestation, sur la qualité des eaux. Donc, c'est une mesure très simple.
La viande, quoi d'autre ?
Alors, évidemment, des petits choix d'aménagement du territoire ou de conception architecturale qui font revenir la nature dans les villes, qui recréent ce contact avec des petits éléments de verdure dans votre maison, ravivent en quelque sorte ce sentiment d'appartenance au monde naturel et donc augmentent de nouveau la probabilité d'adopter des comportements durables.
Quels sont les exemples que vous avez pu voir donc, à l'extérieur, dans d'autres pays, et qui vous rendent plutôt heureux ?
Alors le Costa Rica, par exemple, un petit pays pas très très prospère et qui pourtant a réussi à renverser 60 ans de déforestation très rapide. Il n'y avait plus que 20% du territoire couvert de forêts dans les années 80. Aujourd'hui, on est à plus de 50% du territoire. C'est devenu le centre de l'écotourisme, un pays qui a développé vraiment une philosophie très verte dans son développement et où la population se déclare très très heureuse en moyenne.
Alors, pourquoi encore aujourd'hui des gens, et d'ailleurs aussi leur intérêt, assimile l'écologie à un truc pénible, alors sans aller jusqu'au retour à la bougie, parce que ça maintenant ça devient quand même une telle caricature qu'on n'en parle même plus, mais pourquoi est-ce que c'est considéré comme étant de la pénibilité ?
Parce que je pense que malheureusement nous ne saisissons pas encore bien les opportunités économiques qui sont associées à une transition vers un développement durable, et il faut bien l'admettre, il y a des conflits d'intérêts, il y a des structures industrielles qui évidemment se sont construites sur la consommation massive d'énergie et qui veulent maintenir leur accès à ce marché et qui veulent retarder autant que possible cette transition qui pourtant est inévitable.
S'il est inévitable, c'est parce qu'il y a quand même quelques arbitres. Il y a à la fois, on va dire, la superstar qui est le réchauffement climatique avec quand même de la physique climatique qu'on ne remet plus en question. Il y a la biodiversité, donc avec quand même des stocks qui sont aujourd'hui limités. Et puis il y a l'énergie.
L'énergie, il y a l'eau aussi, la question de l'eau en quantité et en qualité. Il y a la question des forêts tropicales, il y a la question des océans. Évidemment, nos océans se vident de poissons. C'est peut-être le problème le plus urgent de tous, d'ailleurs. Et je pense qu'on ferait une erreur en segmentant ces différents problèmes. C'est l'interaction entre ces différents problèmes qui est bien la source de ces difficultés à réaliser ces transitions. D'où l'importance des formations universitaires interdisciplinaires, d'où l'importance pour chacun des citoyens et des scientifiques de faire cet effort minimum pour s'informer et comprendre la nature scientifique de ces problématiques. De nombreux livres mettent à la portée de tous aujourd'hui ce savoir. Je pense qu'on ne peut pas évacuer cette complexité.
Comment s'est arrivée cette relation avec la nature ? Est-ce que ce sont des grands-parents, des parents, des balades quand vous étiez petit ?
Oui, depuis toujours, j'ai habité à proximité des forêts, donc j'ai passé mes week-ends d'enfants, d'adolescents.
Des forêts ardennaises, c'était quoi, non ?
Non, les forêts laitrées du Brabant wallon, ouais. Et donc les petits sentiers sinueux, les petits terrains vallonnés, et j'ai parcouru ça à pied, à cheval, à vélo, et je continue à le faire de manière quotidienne, quasiment.
Alors, est-ce que vous faites un peu comme Jean Giono qui dit que l'aventure commence au bord du talus, c'est-à-dire que vous pouvez vous émerveiller de petites choses ?
Exactement, et alors être porté par ce flux, cette nature changeante, et laisser son imagination l'interpréter, la réinterpréter, et trouver une source de restauration psychologique importante.
Donc vous ouvrez la porte à la poésie, il faut laisser faire, il faut se laisser aller, il faut être un peu en immersion.
Exactement, et sortir du carcan peut-être un peu rationnel du scientifique que je suis et laisser venir ces émotions importantes qui d'ailleurs sont très importantes dans cette relation que nous avons, que nous développons avec la nature. L'art est une dimension importante aussi de cet aspect-là.
Ça veut dire que vous êtes quand même assez optimiste sur cette histoire-là, et donc accoler le mot bonheur à celui d'écologie, c'est possible?
C'est possible, c'est un défi, et de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et donc, c'est aussi un pari de susciter une attitude d'engagement constructif du public.
Vous l'avez compris, il y avait un peu de monde quand même au cours de cette interview, parce que c'est justement lors de la remise du prix de cette fondation Veolia. Alors, ce qui est intéressant dans cette écologie du bonheur, je le rappelle aux éditions du Pommier, c'est que vous avez vraiment deux thèmes qui traversent le livre, la séparation entre l'homme et la nature, et puis entre les pays riches et les pays pauvres. Et donc, en conclusion, le livre identifie des pistes concrètes pour réconcilier, on va dire, cette quête du bonheur et le maintien de l'intégrité de la nature. Ce n'est pas des solutions clés en main, nos affaires, une fois de plus, loin de là, mais ça donne en tout cas de très belles pistes de réflexion et aussi d'action. Tenez, restez avec nous, parce qu'après, je vais vous offrir une pastille sonore, là aussi, de bonheur. Ce sera Frédéric Dard après cette chanson.
Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Home. You won't come back, you'll go to jail for us, you'll go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you'll go to jail for us, you'll go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. On the old place and camera lens, you go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens, you go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
C'était Revolver sur France Inter, on vous le passe souvent. Alors, on vient de célébrer les 10 ans de la disparition de Frédéric Dard. Donc, c'est vraiment le plaisir de retrouver sa voix dans son Dauphiné natal. Et quand on évoque Dard, on parle très souvent de Bourgoin-Jallieu. Mais notre rendez-vous a eu lieu il y a une quinzaine d'années. C'était à quelques kilomètres un peu plus loin, c'était à Saint-Chef. C'est donc par une jolie journée de printemps. Il était arrivé en voiture de Suisse. Il m'a dit, écoute, je viens parce que c'est la première fois qu'on me propose un reportage dans le village de ma maman. Il avait presque les larmes aux yeux. Alors, le sujet n'est pas totalement écologique, mais c'est une rencontre avec cet homme qui soignait ses spleens à coups de pages géniales bricolées sur sa machine à écrire. Rencontre qui débute au pied de l'église de Saint-Chef. Frédéric Dard, ici à Saint-Chef, donc c'est le village de maman. C'est quand même un petit village qui est complètement moyenâgeux. Est-ce que ça a vraiment beaucoup changé depuis que vous étiez môme ?
Non, pas justement. C'est resté, là par exemple, tout le centre du village est resté intact. À un ou deux magasins dont on a refait plus ou moins la façade, c'est un paquet d'émotions, c'est la jeunesse, c'est mes parents. C'est la découverte du monde, c'est les yeux ouverts, c'est mes premières peurs métaphysiques. C'est dans l'Isère que j'ai réalisé que je vivais, que j'ai réalisé que j'étais mortel, que j'ai eu envie de faire l'amour, que j'ai eu envie de devenir, un homme pas connu, je m'en foutais, c'est pas ça le problème, mais en fait de me manifester, de prouver que j'étais capable de quelque chose. Voilà, pas du tout une question tellement d'orgueil, mais toujours ce sentiment de récupérer les coups fourrés du passé, quoi.
Ah là, c'est fabuleux. Là, sur une poutre d'une très vieille ferme, on voit peint à la main instruments agricoles.
Oui. Ben ça existait évidemment de mon temps. Je lisais ça. Et c'est curieux parce que les caractères, bien que depuis longtemps soient désaffectés, les caractères ne se sont même pas altérés. Ils sont toujours d'un beau noir qui se voit de loin. Quand je me vois devant cette église de Saint-Chef, je ne pouvais pas savoir ce qu'elle représente pour moi. J'ai toujours eu le sentiment, l'émotion du passé, de savoir que cette chose avait 1000 ans et que j'y faisais ma première communion. Ça m'impressionnait. Je sentais que c'était bénéfique. C'est curieux. Et là, vous voyez, il y a cet escalier qui grimpe, parce que tout grimpe à Saint-Chef. Et là, cet escalier avec les copains, on le descendait. J'en ai usé des pantalons. Et peut-être que j'usais aussi la rampe, pour ça qu'elle brille pareillement, cette rampe de fer. Je crois que c'était... Et on se faisait mal aux testicules, bien entendu.
Oui.
Parce que vous voyez comme elle est étroite et en fer. Et moi, vous voyez ces arcs-boutants, là, avec cette espèce de chemin de ronde autour de l'abbaye. Personne n'y va jamais. Moi, je poussais la grille. Je ne me souviens plus si elle était fermée ou pas et si on passait par-dessus. Pas on, parce que ça, j'y allais tout seul. Je partais à la découverte, j'avais l'impression d'être une sorte d'explorateur et que j'allais tomber sur quelque chose de funèbre. Vous voyez, c'est sombre un peu là-bas. Et je faisais le tour, je restais un moment, j'avais le cœur qui cognait un peu. Et puis vite, je revenais sur l'esplanade, là. Ça fait partie, ça aussi, des souvenirs.
Je suis bien décidée à rentrer demain. Seulement, il me faudra un mot d'excuse. Comment tu vas faire, toi ?
Oh, j'en ai un vieux qui a jamais servi. Je couperai la date. Je te le prête jusqu'à demain, t'as qu'à le recopier. Salut. Salut !
Et vous jouiez où, principalement ? C'est quoi votre terrain de jeu ? Vous aviez des petits coins un peu secrets ?
Par exemple, cette rue qui descend, ce chemin plus exactement, c'est en pente rapide et on faisait de la luge, là. Ça s'appelait la vie de la chaîne. C'est ici que j'ai fait le premier ski. On s'en fabriquait avec des douves de tonneaux.
Oui.
Alors on mettait un morceau de cuir, on faisait une espèce de boucle. Et puis avec un tisonnier rougi, on traçait une encoche dessous, quoi. Oui. Et puis on se débrouillait, quoi. C'était vraiment...
Vous n'avez pas trop persévéré, vous n'avez jamais eu de médaille.
Non. Je crois même que j'en faisais mieux à l'époque avec les douves de tonneaux qu'avec des skis plus tard qui sortaient de chez les grands fabricants. C'était le pays de mes grands-parents, oui. Mon grand-père avait des vignes, j'allais avec lui. Les sulfatés, c'était lui qui sulfatait parce qu'à l'époque, c'était pas de la tarte. Hein. Il avait un appareil dans le dos, un réservoir, et puis il pompait. Et c'était des vignes à flanc de coteau. Et je revois toujours ce nuage vert irisé, vous savez. Je veux pas faire de la poésie à 3 balles, mais dans le soleil, c'était sublime. Et je regardais, il boitait, il claudiquait depuis pas mal de temps. Et je ne sais pas, ce vieux m'attendrissait avec sa casquette. Et cet appareil, j'ai un souvenir de lui. C'est un personnage que j'ai relativement peu connu. Et il ne m'a pas accompagné longtemps parce qu'il est mort, j'étais gosse. Mais le peu de fois où il m'a emmené, où j'ai eu affaire à lui, si j'ose dire, ça m'est resté. Ça fait partie des souvenirs des premiers, quoi.
Frédéric Dard, qu'est-ce que c'est les cafilous ?
Les cafilous, c'est...
Cafilous, pardon.
Ça, c'est plus bas. C'est pas d'ici. C'est un peu plus bas dans l'Ardèche, où j'ai également vécu. Parce que j'ai roulé ma bosse entre les grands-mères, les arrière-grands-mères, tout ça. Ce sont des cerises. Mais vous savez, les vieilles cerises oubliées sur l'arbre, qu'on ramasse tardivement, pas celle de la première école, il en reste toujours qu'on oublie. Alors ces cerises, elles sont fripées, elles sont un peu confites. C'est merveilleux parce que le goût, elles sont très sucrées, quoi, elles ont... Et on les laisse macérer dans du vin rouge. Chez nous, ça finit toujours par du vin rouge. Et on les laisse macérer dans du vin rouge. Et je peux vous assurer que c'est absolument délectable. Et je ne sais pas si vous voulez me faire raconter ça. Mais un jour, mon arrière-grand-mère, qui s'était remariée parce que les vies furent tumultueuses dans mes ascendants, oui, aussi bien que dans la mienne, et on apprend que son second mari, qui était un poivreau, un ivrogne, qui la battait, qu'elle avait quitté, etc., était mort. Alors nous allons aux funérailles. Et comme j'étais un môme de 4 ans, on m'avait laissé sous la garde d'une voisine à la maison. Et je trouve un saladier dans lequel il restait encore des cafillous. Et moi, je me mets à goûter des cerises, comme ça. Je demande à la dame, c'est quoi? Elle me dit, des cafillous, goûte mon petit... Et je m'en suis gavé, et c'était au vin rouge, j'ai 4 ans, vous parlez.
Oh là là.
Alors, j'ai dit, et quand ils sont venus de l'enterrement, j'étais bourré à la clé, oui. Complètement. Je pense que ça a dû être ma première cuite. C'était en de drôles de circonstances.